Chapitre 8. Comme si le dieu serpent était furieux, les vagues venaient s'écraser contre les falaises noires. Par bonheur, les norokai étaient habitués aux tempêtes et aux mers démontées. Les eaux tumultueuses et les bras de mer périlleux entre leurs îles leur lançaient un défi excitant et les aidaient à devenir plus forts. Dans le bastion du roi Calvaire, qui dominait l'île principale de l'archipel, l'air humide et froid faisait le pendant de la tourmente qui se déchaînait dehors. Des conditions idéales pour les farouches norokai. Dans la salle du trône, des flammes dévoraient le précieux bois livré par les bateaux commerciaux qui sillonnaient l'archipel. Alors que les norokai étaient des pillards, des tueurs et des esclavagistes universellement redoutés, le bois sur leurs îles rocheuses se révélait un bien plus précieux que l'or et beaucoup moins turbulent que ses fichus prisonniers. Ce soir, le roi Calvaire portait un gilet en peau de requin-loup. Un tueur marin qu'il avait vaincu, tiré sur la plage rocheuse et vidé alors qu'il était encore vivant. À force de dur labeur et de meurtre, le roi avait développé des bras énormes. Dans son peuple, un souverain devait être plus fort que n'importe qui, et Calvaire avait plus d'une fois démontré que c'était le cas, quand il parvenait à contraindre quelqu'un à le défier, car ses adversaires, hommes ou femmes, savaient qu'il n'avait aucune chance de survivre. Assis sur son trône, les yeux rivés sur les flammes, Calvaire serra les poings puis fit jouer ses phalanges revêtues de cylindres de fer. D'un seul coup, il pouvait fracasser le crâne d'un homme qui s'écroulait raide mort comme une anguille à la tête écrabouillée par une massue. Calvaire adorait conclure un duel ainsi, mais pas trop tôt pour ne pas se gâcher le plaisir. Dehors, le vent hurlant tentait de se forcer un passage dans le bastion. Sous ses assauts, les fenêtres craquaient sinistrement. Même volets fermés, on entendait les rugissements du cyclone. Sur l'île, les bâtiments de pierre occupaient tout l'espace disponible et les bourrasques qui s'engouffraient dans les ruelles semblaient hurler à la mort. Même sous un déluge, les gens continuaient à vaquer à leurs occupations. Dans les crevasses de la roche, les femmes s'acharnaient à planter des cactus et d'autres végétaux de ce genre. Sur les îles, chaque pouce carré de terre fertile était précieux. Partout, les bergers menaient leurs ovins au pâturage, à savoir des zones rocailleuses où les lichens et les mousses consentaient à pousser. Défiant les vagues, des pêcheurs revenaient avec leurs prises. Comme chaque soir, Calvaire se goinfrerait de poissons frais. Presque tout le reste de la pêche du jour serait salé et séché ou mis en baril avec des choux et du vinaigre qui faciliteraient la fermentation. Des réserves pour le pire de la saison des tempêtes. Dans le petit port défendu par de hautes falaises, des quais en bois et en fer accueillaient les fières galères qui venaient débarquer le butin récupéré lors des raids. Les sujets de Calvaire, loin d'être une bande de femmelettes, méprisaient souverainement le gros temps. Alors quelques bourrasques quasi anémiques. Pendant qu'il écoutait le vent en réfléchissant à la guerre, son sujet favori, Calvaire reconnut la sonnerie caractéristique des cloches cylindriques installées sur les falaises autour du port. Les sentinelles annonçaient l'approche d'un navire. Ça n'avait rien d'une alarme, parce que personne au monde n'aurait osé attaquer l'archipel des norokai. Une centaine d'îles notées sur les cartes, plus une multitude d'autres trop petites pour mériter cet effort. Toutes étaient des forteresses dressées sur l'eau. Les cloches indiquaient seulement qu'une galère revenait au bercail après un raid ou une mission d'exploration. Se grattant une joue, Calvaire suivit du bout d'un index les deux cicatrices qui couraient des coins de ses lèvres jusque sous ses oreilles. Des incisions volontaires pour élargir sa bouche et le faire ressembler davantage à un reptile. Les écailles tatouées sur sa peau étaient un autre hommage fervent au dieu serpent. Calvaire arborait plusieurs améliorations de ce type. Des éclats d'eau implantés dans ses épaules, un crochet acéré dans la narine gauche. En guise de ceinture, il portait une chaîne de fer. Pour chaque homme tué, il ajoutait un maillon. Aujourd'hui, la chaîne faisait plus de 3 fois le tour de sa taille. Calvaire plissa les yeux pour mieux voir l'homme émacié en tenue blanche qui gesticulait devant la cheminée, dont l'énorme gueule, telle celle d'un dragon, semblait prête à l'arroser de flammes. Se penchant plus que de raison, le chaman albinos passa près de se roussir la peau. Dès qu'il entendit les cloches, il inclina la tête et gesticula de plus belle.
« C'est le capitaine Cor! Il est de retour !»«
Comment peux-tu en être sûr, crayeux? Il peut s'agir de n'importe qui !»«
Non, je sais. Les cloches sonnent dans ma tête. Des voix me décrivent ce que je ne peux pas voir avec mes yeux, et mes yeux voient ce que je suis incapable d'imaginer. »
Se détournant du feu, le chaman gambada gracieusement sur le sol de pierre froide.
« C'est le capitaine Cor, j'en suis sûr !»
La première fois qu'il croisait Crayeux, la plupart des gens frémissaient. Calvert ne voyait en lui qu'un ami loyal. À l'exception d'un pagne fait de peau de poisson cousu, le chaman était nu comme un ver. De naissance, sa peau était d'une pâleur fantomatique. Horrifié, ses parents l'avaient rejeté. Son corps était couvert de petites cicatrices. Un nombre impensable de morsures de poisson. Quand Calvert était encore adolescent, son père, le roi Supplice, avait ordonné qu'on jette Crayeux dans un bassin infesté de minuscules poissons mangeurs d'hommes. Les petits monstres l'avaient mordu, comme pour goûter, mais, contre toute attente, il ne l'avait pas dévoré. La protection du dieu serpent, peut-être. Récoltant lui aussi de cruelles morsures, Calvert avait tiré Crayeux hors de l'eau. Les poissons avaient avalé tout ce qui dépassait. Les oreilles, une partie des lèvres, les paupières et les parties intimes. Grâce à l'aide de Calvert, le jeune albino s'était remis, mais sans redevenir comme avant. Dès son jeune âge, Calvert avait senti le pouvoir de Crayeux. Alors que Supplice était dégoûté par cette épave humaine, son fils avait tissé des liens avec l'albinos, allant jusqu'à écouter son babillage. La terrible épreuve dans le bassin avait éveillé certaines caractéristiques très étranges du don, une aptitude aux prémonitions, semblait-il. Crayeux avait prévu bien des événements, indiquant même à Calvert le moment idéal pour défier et tuer son père. Devenu son chaman et son conseiller, l'albinos ne quittait plus le nouveau roi. Souvent déconcerté par la diction erratique de Crayeux, Calvert devait lui arracher des précisions sur ses oracles, mais il n'avait jamais eu la moindre occasion de mettre en doute leur véracité.
« Tu es sûr que c'est Cor ?»
insista-t-il, certain que Crayeux n'en démordrait pas.
« C'est lui, oui. Il est de retour, j'en suis sûr, roi Calvert. Cor revient avec 3 navires !»
En chantonnant, Crayeux esquissa quelques pas de danse.
« Tu vas voir. As-tu entendu les cloches? Les galères seront bientôt là. Cor viendra te voir et il te parlera de ta prochaine guerre. »«
Quelle guerre? Je n'ai encore rien décidé. »«
Mais tu vas le faire, crois-moi. »
Calvert croisa les bras sur son gilet en peau de requin, puis il s'adossa à son trône. Dehors, les éléments se déchaînaient toujours.
« Si tu ne te trompes pas, je te récompenserai. »
« Davantage de jolis poissons. Pour mon aquarium, j'en voudrais plus. »«
On verra. Mais si tu te trompes, je devrais te punir. »
Crayeux leva des mains implorantes.
« Par pitié, ne me jette pas aux poissons. Pas ça, pas encore. Je suis ton ami, Crayeux. Et toi, le roi Calvert, du monde, tu seras le Calvert. »
Touché par la terreur enfantine du chaman, le roi parla d'un ton presque doux.
« Tu sais bien que je ne te jetterai jamais aux poissons. »«
Et pas non plus au dieu serpent. Tu ne m'enchaîneras pas à flanc de falaise. »«
Bien sûr que non. Tu as trop de valeur et tu es mon ami. »«
Ami Calvert pour tous tes ennemis, ce sera un calvaire. »
N'ayant en fait aucun doute sur les prémonitions de l'albinos, Calvert en conclut que Cor viendrait bientôt lui rendre compte de sa mission à Ildakar. Un rapport que le roi attendait avec impatience. Crayeux pouvait aussi avoir raison au sujet de la guerre. D'une voix tonitruante, Calvert exigea que 5 esclaves se présentent devant lui. Aussitôt, 2 femmes et 3 hommes entrèrent dans la salle du trône d'un pas saccadé. Pendant leur formation, les esclaves royaux subissaient souvent des fractures que l'on réduisait, en dépit du bon sens, de manière délibérée, une sorte de pense-bête à l'intention des récalcitrants. Au bastion, tous les serviteurs étaient donc bancals d'une façon ou d'une autre. Les esclaves surnuméraires servaient sur les autres îles où étaient vendus un peu partout dans le monde.
« Préparez un banquet pour le capitaine Cor, qui vient me rendre compte de son expédition. Avons-nous assez de poissons frais? Ou dois-je faire abattre l'un de vous, histoire que nous nous goinfrions de chair humaine ?»«
On va faire la fête ?»
s'écria Crayeux, ravi par cette éventualité. Blêmes comme des cadavres, les esclaves reculèrent.
Nous avons du poisson, Majesté,
dit le doyen du groupe, un gaillard qui survivait depuis 10 ans au bastion.
Fumé ou frais, à votre convenance, vous ne devrez plus jamais manger de la chair humaine.
Et si j'aime ça ?
Lança Calvert. Un cri du cœur sincère et une façon de terroriser les esclaves.
On finit par se lasser du poisson. Un peu de viande, ça améliore l'ordinaire.
Je vais ordonner au cuisinier de préparer du poisson,
dit le vieil humain. Emmett. Il s'appelle Emmett. Calvert aurait juré que ce type était là depuis toujours. Même s'il accordait peu d'attention au larbin, il s'interrogea sur les qualités particulières de celui-là. À l'évidence, Emmett était un survivant. Une catégorie d'humains qu'il détestait parce qu'elle finissait toujours par causer des problèmes. Faire retirer Emmett ne serait peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Encore que, vu son âge et sa minceur squelettique, il n'y aurait pas grand-chose à manger. Non, ça ne valait pas la peine. Que cet humain continue donc à servir le roi des Norukai.
Crayeux retourna devant la cheminée, sans doute pour se réchauffer. Là, il débita un monologue incohérent sur les poissons, les petits, destinés à son aquarium, les plus gros, souvent venimeux et couverts d'épines, et un spécimen capable de produire des éclairs sous l'eau. L'aquarium était un privilège que Calvert concédait à son vieil ami. Au moment où la cuisine faisait livrer le repas, trois grands Norukai entrèrent dans la salle du trône. Grâce à la dent de requin implantée sur son crâne chauve, Calvert reconnut le capitaine Kor au premier coup d'œil. Bien entendu, les trois hommes arboraient les incisions rituelles en l'honneur du dieu serpent. Carrant les épaules pour mettre en valeur ses éclats d'eau, Calvert se pencha en avant sur son trône. De ces braves guerriers, il n'attendait jamais de courbettes ou d'autres manifestations de ce genre. Leur respect, il voulait le gagner par ses actes, pas via un protocole grotesque. Logiquement, Kor était flanqué par Yorick et Lars, les capitaines des deux autres bateaux vendeurs d'esclaves.
« Ne t'avais-je pas dit que c'était Kor ?»
triompha Crayeux.
« Kor, il va y avoir la guerre !»
Les trois visiteurs concentrèrent leur attention sur le roi. Depuis toujours, le chaman albinos mutilé ne leur inspirait pas confiance.
« Dis-moi ce que tu as découvert, capitaine. Ton rapport peut décider de la prochaine campagne. Il est temps de nous remettre à l'ouvrage. »
Nos trois galères ont fendu les flots vers le sud, là où le fleuve se jette dans la mer. À bord, nous avions 200 esclaves et nous en avons ajouté en chemin.
Parfait, fit Calvert. Les villes côtières du sud doivent être saignées à blanc, comme les forêts qui les entourent. Dès maintenant, il faudra concentrer nos attaques sur la côte nord.
Ou sur une cible encore plus intéressante. Voilà des années que nous commerçons avec Ildakar au gré de ses apparitions. Les sorciers le cachent sous un linceul magique, mais leurs efforts faiblissent et l'anarchie s'installe dans les rues. La veille de notre départ, l'un des nôtres a disparu et nous n'avons pas retrouvé son cadavre.
Dar,
marmonnèrent Yorick et Lars.
Ces bouffons poudrés ont tué un homme à nous.
Nous n'en sommes pas sûrs, Majesté, dit Yorick. Dar fréquentait assidûment les bordels et un soir, il ne s'est pas remontré. Ivre mort, il a pu se faire tuer et détrousser dans une ruelle sombre.
L'affaire peut servir de prétexte à une attaque,
proposa Kor.
Si c'est ce que tu veux, mon roi, nous vengerons Dar.
Je déteste les prétextes,
grogna Calvert.
Quand on veut faire la guerre, on attaque, et voilà tout.
Ildakar, c'est notre destin,
lança Crayeux.
« Roi Calvert, pour tous, ce sera un calvaire !»
Le roi fit signe au chaman de la boucler. Crayeux ne se tut pas, mais il plaqua une main sur sa bouche.
« Capitaine Kor, me suggères-tu de conquérir Ildakar ?»«
Ce serait une idée géniale, Majesté. Nos cales sont remplies de tonneaux de vin et de viande de Yaksen, une bête d'élevage à la chair délicieuse. La ville produit aussi des soieries et des fourrures de très bonne qualité. » Comme elle s'ouvre de plus en plus au commerce, nous avons été très bien accueillis. Pour qu'une attaque surprise réussisse, il suffira de nous infiltrer à un moment où le linceul est inactif. D'après ce que j'ai vu et entendu, pour le réactiver, il leur faut des jours de préparation et un massacre de masse. Ça nous laisse tout loisir d'attaquer et de piller. Cette cité est une mine de richesses et d'esclaves.
Sans oublier le vin !
Éructa Lars. Kor fit mine de ne pas avoir entendu.
« Malgré quelques puissants sorciers, ces gens sont très faibles.
Des sorciers !
Chantonna Crayeux.
La magie peut être vaincue. Le dieu serpent sait comment faire et moi aussi.
Calvaire se tourna vers le chaman.
Comment peut-on vaincre la magie ?
Pour l'instant, je n'en sais rien, mais je trouverai.
Crayeux s'accroupit devant la cheminée et passa les mains au-dessus des flammes pour les réchauffer.
Le moment venu, je saurai.
La table étant mise, Cor, Yorick et Lars s'assirent.
Majestueux, Calvaire vint s'installer à la place d'honneur devant les assiettes les mieux garnies. S'emparant à main nue d'un poisson grillé, il détacha les filets et les gobas.
Avant tout, faites-moi parvenir votre viande de Yaxen. J'en ai assez du poisson et je déteste la chèvre. En attendant, je réfléchirai à cette guerre. Une centaine de galères sont en cours de construction dans l'archipel. Je ne partirai pas en campagne avant que la moitié au moins soit terminée. Île Dakar existe depuis des millénaires. Quelques mois ne changeront rien. Au bout du compte, nous gagnerons.
Après l'avoir sucé, Cor jeta au loin une tête de poisson.
Je ne veux pas me tourner les pouces pendant des semaines, Majesté. Cette mission commerciale m'a tapé sur les nerfs. J'ai hâte de répandre du sang. Donne-moi quelque chose à faire.
Après un voyage sans problème, Cor apprécierait sans doute une bonne bataille.
J'ai un raid en tête, capitaine. Tu vas partir pour le nord avec tes galères, puis tu attaqueras Renda-sur-Bay, une ville côtière. La dernière fois, ces chiens nous ont repoussés et ils méritent une leçon.
Oui, une leçon,
chantonna Crayeux.
Qu'on les étripe.
Cor, tue-les tous.
Après ton départ, il ne devra rester que des spectres.
Des spectres, oui, comme moi,
couina le chaman.
Le seul Norukai adulte qui n'ait pas la bouche agrandie. S'il lui manquait une partie des lèvres, ça n'était pas compensé par des incisions rituelles.
Cor hocha la tête avec gratitude.
J'accepte de tout cœur cette mission, mon roi.
Calvaire avait durement puni le capitaine vaincu par cette bourgade de pêcheurs. Enchaîné à flanc de colline, l'officier avait nourri le dieu serpent afin que celui-ci veuille bien protéger les Norukai et leurs souverains.
N'échoue pas, surtout.
Compte sur moi, Majesté.
Satisfait par cette réponse, Calvaire termina son assiette de poisson en rêvant de viande de Yaxen.